Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau conseil de famille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore bien souvent tabou, un sujet compliqué. Il s'agit de la mort et plus particulièrement du deuil chez l'enfant. Alors, je le disais, un sujet très compliqué à aborder avec les enfants, mais au fond, compliqué pour qui ? C'est avant tout la manière dont on va en parler, dont on va se comporter en tant qu'adulte, qui va donner une petite idée à l'enfant de ce qui se passe pour lui, surtout s'il est tout petit et qu'il ne comprend pas tout, et peut-être aussi la manière dont il devrait se comporter. Chaque société est différente dans son processus de deuil. Certains veillent leur mort en famille pendant plusieurs jours et d'autres ont malheureusement été expédiés. Alors, je n'aime pas trop employer ce terme, mais je pense à nos aînés décédés pendant la pandémie et qui ont été, pour certaines familles, un véritable traumatisme. Et puis nos enfants, pour les protéger, eh bien on voudrait les éloigner de toute peine. Cependant, la mort fait aussi partie de la vie. Avant, on grandissait à la campagne et on voyait plus ou moins les animaux mourir, plus ou moins volontairement, hein, bien sûr. Et ça permettait aux enfants de s'approprier cette notion de la mort, de s'approprier certaines de leurs sensations et de poser des questions. Alors, dans ce conseil de famille, on va peut-être aborder et avoir quelques réponses au sujet de la mort avec Anne-Maric, qui est coordinatrice pour le programme de réussite éducative sur l'ODEV. Bonjour Anne-Maric.
Bonjour Laurence.
Et bienvenue. Et puis on accueille aussi Valérie Orvin. Valérie Orvin de l'association Grandir Ensemble, qui propose du soutien à la parentalité et puis qui est aussi, je le rappelle, formatrice en éducation émotionnelle et relationnelle. Bonjour Valérie.
Bonjour Laurence.
Et bienvenue à vous. Alors, quand on parle de deuil, Valérie, tu nous disais en off que tu ne pensais pas forcément à la mort de quelqu'un. La deuil, c'est avant tout la perte.
Et oui, la perte, on peut perdre des objets. Hein. L'enfant peut perdre un doudou, sa peluche préférée, etc. Et puis, il y a aussi perte et deuil. Par exemple, quand on déménage et qu'on se sépare de ses copains et de ses copines. Quand papa et maman se séparent peut-être. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est aussi... Des deuils, ça veut dire, en fait, quand on perd quelque chose, ça crée de la tristesse. La tristesse, c'est juste une émotion qu'il est important de traverser. Hein. C'est un petit peu comme la pédale d'embrayage dans une voiture. Ça nous permet de passer à autre chose. On traverse. Et quand on perd quelque chose ou quelqu'un, eh bien, nous sommes en deuil et nous avons besoin de traverser ça. Et parfois, c'est long.
Plus ou moins long.
Plus ou moins long, plus ou moins selon comment c'est accompagné, comment c'est écouté, entendu, accueilli. Parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, la mort en particulier, ça reste vraiment quelque chose de tabou encore aujourd'hui. C'est difficile d'en parler, les enfants sont plus confrontés à ça, nous non plus. Enfin, ou bien dans des conditions absolument dramatiques, parce que dans notre culture, c'est dramatique. Voilà, donc on va parler un peu de ça, ouais.
Alors, je disais en introduction, et je vous ai vu réagir là-dessus, cette histoire de pandémie qui nous a privés de nombreuses personnes. Et pendant cette pandémie, donc des familles qui ont été privées de ces enterrements, privées de ces accompagnements.
De ces rituels,
merci.
Cette manière d'honorer la personne qui part, et puis de faire ce chemin pour vraiment acter la disparition de la personne et pouvoir commencer notre vie sans elle, quoi.
Je disais aussi que selon les sociétés, l'accompagnement du défunt n'est pas forcément le même. Notamment au Mexique où les morts sont fêtées aussi chaque année. Mm-hmm. On repense à ceux qu'on a perdus auparavant et on fête ça dans des fêtes très colorées. Mm.
Tout à fait. L'Inde aussi qui
on s'habille en blanc.
Oui, l'Inde aussi, je crois qu'il a...
C'est très festif,
parce qu'on part dans une autre vie, souvent.
C'est ça, c'est très lié aux croyances, en fait.
Aux croyances, oui, je pense que...
Croyances qu'on a de ce que c'est la mort et de ce qui se passe après, surtout. Mm-hmm. Et du coup, et c'est vrai que dans nos cultures judéo-chrétiennes, c'est dramatique, quoi. Mm. C'est quelque chose de dramatique. On pourrait relativiser ça, effectivement, en allant voir un peu comment ça se passe ailleurs.
Mais peut-être que la mort se prépare bien avant, c'est-à-dire lors de notre vie, et que c'est comme le reste, hein, c'est quelque chose dont il faut parler,
oui.
Et parler aux enfants.
Oui, car c'est encore très tabou aujourd'hui, hein, tu le disais tout à l'heure. Alors que c'est essentiel parce que ça me fait penser à une petite image que j'ai vue récemment. C'est un vieux monsieur avec une grande barbe blanche avec des fleurs dedans. Il est sur un mini vélo et puis il dit de toute façon, on n'en sortira pas vivant. Donc on peut juste vivre tranquille en fait et en joie, hein, parce que c'est là qu'on va tous, quoi.
Alors revenons aux enfants.
Oui, c'est ça, j'allais le dire. C'est intéressant en tout cas d'en parler effectivement entre adultes, d'être se clarifier par rapport à ça pour pouvoir en parler aux enfants de façon tranquille, quoi. Mmh. C'est quelque chose qui fait effectivement parler de la partie de la vie. C'est important de dire les vrais mots, comme pour tout le reste, en fait.
Très important.
Très important de dire la vérité, vraiment d'être authentique avec nos enfants et de dire quand quelqu'un meurt ou un animal meurt, un animal de compagnie, hein, ça rend très très triste les enfants. Le mot « il est parti », c'est quelque chose qui est compliqué. Je me souviens quand j'étais éduque de jeunes enfants en crèche, les enfants qui avaient vécu ça et le « il est parti », ben quand maman ou papa partait le matin de la crèche, c'était un drame en fait, parce que partir, ça veut peut-être dire ne jamais revenir en fait. Donc attention aux mots qu'on emploie.
J'ai un autre exemple sur ça, par exemple, où un petit garçon, on lui avait dit que papy était parti dormir pour toujours.
Oui.
Et depuis, il dormait plus, cet enfant. Donc voilà, c'est important qu'on utilise les vrais mots.
Oui.
Voilà.
Alors les vrais mots, ça veut dire que l'autre n'est plus là, l'autre est mort.
Il est mort.
C'est très compliqué.
Qu'est-ce que c'est être mort ? Mort, c'est il y a plus de vie à l'intérieur du corps. Mm. La personne, elle respire plus. C'est parce que c'est vraiment là. C'est dès que le souffle s'arrête. Premier souffle, dernier souffle. Personne ne respire plus. Il reste sa dépouille. Le corps, c'est une dépouille en fait. Mais elle est partie où alors ? Son âme, alors il y a des gens qui disent que... Et là, on peut parler de
des croyances.
Il y en a qui croient ça, il y en a qui croient ça. On dit ça, on dit ça. À toi de te faire ton idée avec ça.
Et c'est vrai que c'est là où ça peut être difficile pour le parent. Parce qu'il est triste à ce moment-là.
C'est
il
n'a
pas forcément... Donc, des fois, c'est bien aussi d'en parler avant que ce genre de choses se passe.
Oui,
quand on peut se préparer.
C'est
si on peut se préparer à ça. Mais voilà, c'est important d'en parler. On va écouter justement ce petit garçon, Colin, qui a 8 ans, et avec lequel j'ai pu échanger autour de la mort. On n'a pas l'habitude d'en parler de la mort, hein.
Non.
Pourquoi on n'en parle pas, d'ailleurs ?
C'est pas... Quand on y pense, la personne qui est morte, elle est toujours dans notre cœur. Mais la mort, on n'y pense plus trop.
Et pourquoi on n'en parle pas ?
Parce que c'est pas forcément rigolo.
Tu penses qu'il y a quoi après la mort ?
Il y a quelque chose. On revit, mais dans notre cœur à nous.
La personne, elle revit dans notre cœur ?
Oui. On y pense, c'est comme si on lui parlait.
Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Tu vois ce que c'est la réincarnation ?
Non.
C'est quand... par exemple, dans une religion qui est le bouddhisme, les gens pensent qu'après la mort, on revit dans d'autres corps vivants. Alors, ça peut être dans des animaux, ça peut être dans des plantes, ça peut être dans d'autres personnes.
Peut-être dans les animaux et les plantes, mais pas forcément dans quelqu'un.
Toi, tu aimerais te réincarner ou tu aimerais juste vivre dans le cœur de quelqu'un d'autre ?
Les deux.
Et si tu te réincarnais ?
Ce serait plutôt dans le corps d'un animal.
D'un animal ?
Ouais.
Par exemple, ce serait quoi ?
Le renard. Pour moi, c'est mon animal totem.
Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu parler de la mort ?
J'avais 2 ans. Il m'avait dit quelque chose. Mon papa était avec quelqu'un de sa famille qui était décédé. Et là, d'un coup, ça m'a fait une ombre noire dans mon corps, qui m'a fait assez peur. Je sais pas, j'ai pensé à moi quand je mourrais. Je pourrais plus forcément voir mes amis.
Merci. Voilà, alors pour certains, il s'agit de réincarnation. Pour d'autres, voilà, les morts vivent dans notre cœur, bien sûr. Hein, ce petit garçon en parle très bien. Comment on se prépare et comment on les prépare à ça quand on peut ?
On en parle en amont, comme on disait tout à l'heure, pas forcément au moment où ça arrive, un peu comme pour tout d'ailleurs. Et du coup, on peut s'équiper de livres, par exemple. Alors, il y a des films à voir aussi, et puis on peut s'équiper de livres qui parlent de ça. Et du coup, on lit ça ensemble, on en parle, ça pose des questions philosophiques. Donc, il y a Catherine Dolto-Tolich qui a fait des bouquins là-dessus. Il y a la série de Max et Lily qui est chouette, il y a les goûters philo. En même temps, ça aide les parents à poser les questions derrière. On en parle avec les enfants. C'est un sujet, pareil, qu'il est... Il y a 2 sujets super tabous, c'est la sexualité et la mort, en fait. Et donc, parlons-en au moment où on est détendu avec ça et donnons des billes aux enfants pour réfléchir à ça et se positionner. On n'est jamais prêt quand on perd un être cher.
Oui.
Cependant, si en amont, on a pu se clarifier par rapport à ce que c'est pour nous, à ce qu'on aimerait faire avec la personne, à ce qu'on aimerait nous faire pour commencer à aller mieux. Voilà. Il y a des conférences aussi à regarder, à écouter en tant qu'adulte autour de tout ça pour pouvoir en discuter avec les enfants. Je pense particulièrement à Christophe Fauré, qui est un psychothérapeute et qui vraiment a une manière... original et qui apporte un réconfort inestimable quand on traverse ce genre de choses. Et donc d'écouter ça quand on n'est pas dans cette situation, ça donne des billes pour après et ça permet d'en parler avec les enfants.
Alors il y a beaucoup de parents qui se posent la question, est-ce que on doit montrer la dépouille, le défunt aux enfants? Est-ce que les enfants viennent à l'enterrement? Est-ce qu'on leur pose la question? Enfin, les enfants et un peu plus grands hein, aussi. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse toujours la même pour tout le monde, qu'il faut en parler, savoir ce qu'ils veulent eux, s'ils veulent venir et s'ils ne veulent pas venir, pourquoi ils ne veulent pas venir, quels sont leurs freins, hein, en fait, pourquoi il a peur ou il a peur de voir tous les gens tristes, etc. etc. Et peut-être bah, s'il veut vraiment pas venir, bah, qu'il ne vienne pas. Il ne faut pas que ça ne vienne non plus un traumatisme.
Voilà, il ne faut pas le forcer.
Et puis lui proposer du coup quelque chose qui lui permettrait quand même de faire une sorte de rituel. Donc peut-être un cadeau, un dessin, quelque chose qu'on peut mettre sur le cercueil qui va pour lui signifier à ce moment-là le rituel de dire au revoir à sa façon et adapté à son âge.
Ouais, ça peut être une lettre aussi.
Une lettre.
Ça peut être une lettre, et puis aussi peut-être si l'enfant effectivement ne souhaite pas venir, ne pas l'obliger, mais si l'enfant souhaite venir, accepter qu'il vienne, parce qu'on voudrait protéger nos enfants, toujours pareil. Il y a une amie psychothérapeute qui me racontait qu'elle accompagnait les enfants comme ça parfois, en partant dans la nature avec eux, en parlant de la personne disparue, etc., et en leur faisant fabriquer un petit radeau pour que l'enfant puisse placer le radeau au fil de l'eau. Et avec, qu'est-ce que tu as envie de placer sur ce radeau pour ton grand-père, la personne défunte ou ton animal, enfin peu importe. Et très souvent, les enfants souhaitent mettre à manger parce que pour ce voyage, il va avoir faim. Et voilà, et de vraiment ritualiser ça pour acter le début d'autre chose. La fin de ça et le début d'autre chose, c'est hyper important.
Et puis ce rituel de donner à manger, on le retrouve dans certaines cultures, notamment
exactement.
Pour les bouddhistes. Hein,
exactement.
Voilà, qui continuent de nourrir leurs défunts bien longtemps après leur départ aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet accompagnement des enfants? Parce que déjà, il faut être au clair soi-même. Il y a des parents qui n'ont jamais fait le deuil de certains de leurs proches et qui sont dans l'incapacité de parler tellement ils sont en peine et ils ne veulent pas faire ressentir cette peine à leurs enfants. Mais ils pensent qu'ils ne font pas ressentir cette peine à leurs enfants.
Les enfants, c'est des éponges. Hein, on ne peut pas les protéger de tout et surtout là, les parents qui ont cette peine-là, au moins essayer de leur dire que ce n'est pas de leur faute, qu'ils sont tristes, mais que ça va aller quand même, que la vie continue. Enfin voilà, je le dis très simplement avec des mots très simples, hein, mais que c'est normal qu'on soit triste parce que cette personne nous manque, mais que la vie continue quand même et que des fois maman pleurera ou papa est en train de pleurer, que c'est ok. Que c'est pas grave, que ça va passer aussi.
Et que même c'est important.
Et que c'est important de pleurer, effectivement. Mais malgré tout ça, la vie continue.
Voilà. Et puis aussi, déculpabiliser les enfants qui n'ont pas de peine. Parce que, voilà, selon l'âge, selon le lien qu'on a avec le défunt, selon le moment dans sa vie, on n'a pas forcément une peine immédiate comme les autres.
Exactement.
Et des fois, on passe pour le ou la sans cœur. Enfin bon.
Exactement.
Et parfois, chez les adolescents, les parents dont les adolescents ont perdu quelqu'un de très proche, etc., s'empressent de chercher un médecin psychiatre parce que, en se disant, cet enfant a besoin d'en parler, il a perdu sa mère, etc. Enfin voilà. Et des fois, chez les ados, ça s'exprime bien des années plus tard.
Exactement. C'est pas forcément le bon moment tout de suite. Cependant, je reviens quand même sur la tristesse. C'est important de permettre aux enfants, aux ados, enfin à tout le monde autour là qui a besoin de pleurer et de donner cet espace-là. C'est normal de pleurer quand on est triste. Oui. Et de pleurer, ça lave le cœur, ça évacue quelque chose, ça apaise notre système parasympathique. C'est important de donner cet espace de pleurer. Cependant, si l'enfant ne pleure pas, l'ado ne pleure pas, ou voilà, c'est ok aussi. Peut-être qu'il pleure dans son coin tout seul. Enfin, peut-être qu'il a pas envie de partager ça. Peut-être, voilà, et de dire, peut-être tu préfères pleurer quand t'es tout seul. Mais moi, il y a mes bras qui sont là, et si tu veux pleurer, bienvenue à toi, quoi.
Alors, on va écouter Julie Beffort, qui est la maman de Naël, 10 ans.
Bonjour. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons parler de la mort, de nos morts, de comment en parler aux enfants. Avec les enfants, de comment les accompagner dans le deuil. Pour moi, contrairement à des idées reçues, les petits sont très ouverts et demandeurs, beaucoup plus à l'aise avec des sujets aussi tabous que la mort par rapport à nous. Ils ont également beaucoup de questions précises et veulent de vraies réponses, autres que métaphoriques ou symboliques. Les enfants ont selon moi besoin d'authenticité et de transparence. Pour cette chronique, j'ai fait le choix d'avoir une petite discussion avec mon fils. Pour moi, la question de la tristesse quand j'étais petite est devenue hyper importante parce que au moment où ma grand-mère est morte, moi je sentais la tristesse des autres, je voyais la tristesse des autres, je pouvais avoir de l'empathie, je pouvais moi-même avoir un peu de tristesse, mais en fait j'étais surtout réjouie, excitée, contente de me retrouver avec tous mes cousins, mes oncles et tantes. Ça ressemblait un peu à une fête, cet événement où on se regroupait tous. Avec mes cousins, cousines, on avait des fois des moments de fou rire. Je me sentais pas entièrement connectée à cette tristesse. Il y avait vraiment une sorte d'excitation, la sensation que c'était un truc spécial. Et je me le suis fait reprocher sur le moment par les adultes qui, au final, aujourd'hui, je le vois, s'attendaient à ce que j'ai une sorte de masque de deuil sur moi, qui, même si c'était pas mon deuil, en fait, même si c'était pas mon masque.
Quand Nani, mon arrière-grand-mère, est morte, je n'étais pas triste parce qu'elle était morte, j'étais triste parce que tu étais triste. J'étais content parce qu'on était tous ensemble. Je n'ai pas aimé qu'on ne me réponde pas sur mes questions sur le four crématoire. J'avais plein de questions techniques et ça a mis certains adultes en colère. Et c'est toi qui m'as donné les détails. Des adultes m'ont dit qu'elle partait au ciel et au final elle est partie dans le four.
Ok, toi comment tu t'es sentie avec ça, qu'elle parte dans le four plutôt qu'au ciel.
Moi, c'était beaucoup plus clair.
Et moi, je vois que c'est vraiment important pour les enfants de pouvoir avoir les adultes qui mettent des mots concrets, précis, et en fait, pas présupposer qu'ils vont avoir plus mal. En fait, je crois que les enfants sont vraiment capables de traverser les chagrins. Moi, je pense par exemple à un petit enfant lors de l'enterrement de sa propre mère qui peut jouer... par exemple dans les travers du cimetière, et en même temps pleurer sa maman, les deux adviennent ensemble. L'enfant en fait connaît la résilience avec une force que les adultes n'ont pas toujours. Comme si l'enfant il était naturellement poussé par la force de la vie, et que la mort le stoppe pas, en fait elle arrive, elle fait partie de sa vie, c'est un bout, mais ça le définit pas. Et en revanche la manière dont les adultes vont réagir en face de lui, ça peut lui donner une indication de bien ou de mal, comme s'il... il était censé être triste et ne pas le ressentir, du coup peut fausser sa manière de comprendre la situation. Par exemple, est-ce que je suis normale si je n'ai pas que de la tristesse? Est-ce que je suis normale si j'ai pas seulement mal?
Pour l'enfant, c'est plus facile pour lui de ne pas pleurer dans un enterrement que l'adulte. C'est comme si l'adulte choisissait le chagrin, alors que l'enfant va choisir la joie et pas la tristesse.
Comme si l'enfant, naturellement, il est dans la vie face à la mort quand même, et que l'adulte, qu'est-ce que ça lui fait lui à l'adulte?
L'adulte laisse le chagrin le définir alors que l'enfant ne laisse pas se définir par le chagrin.
Et est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir une relation avec quelqu'un après sa mort?
Moi personnellement je ne crois pas ça possible, mais on peut encore y penser en donnant des objets qui étaient à lui ou à elle et en regardant des photos, en lui parlant, en pensant qu'il va nous entendre. Ça nous réchauffe le cœur.
Est-ce que ce serait pas quand même une forme de relation?
Un petit peu.
Et du coup, comment tu te sens, toi, quand tu manipules ces objets, tu regardes les photos, c'est comment pour toi?
Je pense à la personne qui est morte.
Et du coup, ça ramène du chagrin ou c'est autrement?
Bah, ça me réchauffe le cœur d'y penser alors qu'elle est plus là. Ça fait comme si une part d'elle était encore un petit peu là.
C'est vraiment faire exister la personne absente
dans mon quotidien, eh ben, ça me met un peu un truc un peu magique et joyeux de la ramener ici et maintenant alors qu'elle est plus là.
Si tu penses qu'à la mort et au moment où elle est morte, tu vas être triste, alors que si tu penses à la joie et au moment où elle était encore là, tu vas être joyeux au lieu de triste.
Cultiver la relation à nos morts, ça veut dire pas cesser de les évoquer, et puis me rappeler aussi que j'ai pas que vécu des choses sympas, et en même temps, je remets la vie dans le bon sens, quoi. J'ai l'impression de quelque chose d'authentique qui peut réparer.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi.
Voilà ce petit Naël, merci à lui, je rappelle qu'il a 10 ans. Donc sa maman Julie Beffort, qui est accompagnante à la parentalité, qui intervient régulièrement à l'association Grandir Ensemble. Tu voulais rebondir là-dessus?
Oui, on entend Julie et Naël qui parlent de ça. C'est vrai qu'il y a, à ce moment-là, quand il y a une perte, quelqu'un qui a décédé, en fait, ce qu'on pleure et ce qui est insupportable, c'est le manque, c'est le vide, c'est ce truc-là. Et Christophe Auré parle très bien de ça, de comment est-ce que je vais relationner avec cette personne à partir de maintenant? Comment je vais être en lien toujours, puisque l'amour s'arrête pas, le cœur s'arrête pas, enfin, voilà, de cette personne, elle est dans ma vie, elle y sera toujours. Comment ça va être? Comment je vais être en relation avec cette personne qui physiquement n'est plus là, mais qui est toujours présente dans ma vie?
Qu'elle dit dans la chronique, hein, cultiver la relation.
C'est ça,
avec nos morts.
On continue de cultiver la relation parce que c'est une réalité.
Alors de quelle manière on peut continuer à cultiver la relation?
Eh bien, on peut effectivement leur parler, on peut mettre des photos autour de soi, on peut dans un premier temps aussi respirer leur linge, retrouver leur odeur, on peut écouter leur voix si on a des enregistrements, regarder des films, enfin voilà, être proche de cette manière-là.
On va écouter tout de suite Grand Corps Malade.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupés d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles, mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers. Moi les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Voilà, c'était Grand Corps Malade, il est fort ce Grand Corps Malade, avec nos absents. Alors, pour conclure ce conseil de famille sur le deuil chez l'enfant notamment, qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Marie ?
Moi, je voudrais insister sur le fait d'autoriser. Alors, autoriser à ce que l'enfant puisse dire au revoir à sa façon, autoriser qu'il puisse avoir des émotions ou pas, autoriser les questions, voilà, qu'il peut avoir autour de ça. Voilà, moi, je crois que je resterai là-dessus. Autoriser l'ouverture.
Voilà, et enfin, pour autoriser l'enfant, il faut qu'en tant qu'adulte, oui, on soit assez au clair. Hein.
Tout à fait, c'est ce qu'on a dit au tout début.
Oui, pareil, hein, l'idée c'est vraiment de sortir de ce tabou, quoi, et de pouvoir parler ouvertement de la mort. Et pour ça, effectivement, en tant qu'adulte, il s'agit de se mettre au clair avec ça.
De nommer ses émotions.
Mm-hmm. Nommer ses émotions et puis se mettre au clair avec ça, aller voir un peu qu'est-ce qu'on a besoin de nourrir là, quoi. Et puis, j'ai envie de dire que la vraie question, c'est plutôt comment vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Au-delà de pourquoi on meurt, et puis que même si un jour on meurt, ben, ça vaut la peine de vivre.
Merci, merci beaucoup pour cette conclusion, Valérie Orvin de l'association Grandir Ensemble. On retrouve toutes les coordonnées, hein, des associations sur le site de la radio.
Il y a les ateliers Parents Partage qui sont une fois par mois maintenant à l'ODEF, des ateliers gratuits pour les parents qui sont sur le thème que vous voulez, des petits groupes de parents. Voilà. Accompagné par une professionnelle.
On s'autorisera, oui, à y aller, c'est promis.
Exactement.
Merci Anne-Marie Costams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative à l'ODEV. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Et puis je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain, samedi, à 13h. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.